Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoires. Eh bien, bonjour. Ah, aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème. Un gros problème. Un énorme problème. Et s'il y a un problème dans la vie, c'est bien la mort.
Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison, si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, 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 macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, 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 macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où, et même à la grande rigueur ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil, où quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, 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 corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, 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 macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
Eh oui, tout bouge, tout change. Ah, quand j'étais gamin, la mort faisait partie de la vie. Il était bien rare d'arriver à une dizaine d'années sans avoir vu, de ses yeux vus, au moins un mort. Ouais, c'était tout, ou presque tout, comme le raconte Brassens. Des enterrements, j'en ai suivi beaucoup en compagnie d'Irma, ma grand-mère. Eh oui, comme le chantait de Brassens, jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. Tout le village était présent à chaque enterrement, et ne pas y assister, c'était être l'objet de tous les commentaires, de toutes les suppositions malveillantes. Un mort, ça se respecte. Et à moins d'être gravement malade, chacun se faisait donc un devoir d'accompagner le défunt à sa dernière demeure. Ah, il faut dire qu'outre le risque de faire jaser les commères, un enterrement était une distraction, une sorte de fête qui se terminait chez Madeleine, l'épicerie, café, restaurant, ça se terminait chez Madeleine, le verre à la main dans le brouhaha des souvenirs. Ouais, vous vous souvenez le jour où... Et chacun y allait de son histoire. Et bientôt, les larmes faisaient place au rire. Le vin n'y était pas pour rien dans cette gaieté, non. Non, même les proches du mort se mettaient de la partie. Ils avaient pleuré tout leur content à l'église et au cimetière. Et s'il leur restait quelques larmes, ils les gardaient pour quand ils seraient seuls. Sur l'instant, la gaieté prenait le pas. Rire... N'est-il pas encore le meilleur moyen d'exorciser la mort ? Rire, boire et manger. Madeleine apportait du pain et de la cochonaille. Ah, c'est qu'on boit mieux quand on a l'estomac plein. Et les « tu te souviens ?» succédaient aux « oh, tu te rappelles ?» Et puis les verres succédaient aux verres. Monsieur le curé passait de groupe en groupe, il profitait de l'occasion pour une petite quête supplémentaire et récoltait une pièce ou une invitation à dîner. Il rougissait de plaisir quand une bigote lui faisait un commentaire élogieux sur son homélie. Ah, il aurait tant voulu être un grand orateur. Irma, ma grand-mère, pour ne pas être obligée de lui serrer la main, suivait ses déplacements du coin de l'œil. Elle se débrouillait pour ne pas se trouver sur son passage. Et ce manège en amusait plus d'un. Philippe, le mari de Madeleine, l'épicière, se faisait un malin plaisir de venir la provoquer. « Ah, oh, il est bien brave, notre curé, vous trouvez pas, Madame Irma ?» Elle lui jetait un regard assassin, finissait de boire son verre et grognait « Bon, c'est un curé !» Et elle ajoutait « Bah, vous devriez me servir à boire plutôt que de dire des bêtises. » Irma n'était guère croyante, mais elle se rendait au moins une fois par semaine au cimetière. C'était pour elle une promenade comme une autre, mais plus personnelle, sans l'obligation d'écouter, de compatir ou de critiquer, ce qui était le lot commun des visites qu'elle rendait les autres jours à ses concitoyens. Moi, j'aimais bien cette promenade. Le cimetière était un peu en dehors du village. Pour s'y rendre, il fallait passer devant l'église, la mairie, l'école, et prendre sur la gauche une petite route qui montait très fort au milieu d'un petit bois. Cette montée ne faisait que quelques centaines de mètres, mais la pente était raide. À mi-chemin se dressait un calvaire. Lors des enterrements, le convoi funèbre marquait un arrêt à cet endroit. C'est qu'un cheval, ça doit souffler. C'était la raison officielle. Mais c'était pour les humains que ça semblait le plus nécessaire. Ah, depuis que la route montait, les conversations se raréfiaient et arrivé à cet endroit, plus un mot ne sortait des bouches haletantes. Alors lorsque le cheval avait repris son souffle, le cortège reprenait sa marche et les conversations leur cours. Nous nous y arrêterons toujours quelque temps, nous aussi, Irma, ma grand-mère et moi, pour reprendre haleine. Irma s'asseyait sur les marches du calvaire, le dos à la croix. fouillait dans son cabas et buvait un petit coup de cette manière si drôle qui était la sienne. Lorsqu'elle avait repris son souffle, nous reprenions notre marche. Un dernier effort et nous arrivions enfin devant la porte du cimetière. Cette porte me fascinait. Les jours de soleil, elle brillait d'un éclat irréel, magique. Oh, de près, ce n'était jamais qu'une grande porte en fer avec des barreaux, une grille digne d'une prison. Avait-on peur que les occupants risquent de s'en échapper? Ce qui rendait cette porte si extraordinaire, c'était la peinture argentée dont elle était recouverte. Au moindre rayon de soleil, elle resplendissait. Et quand il faisait grand soleil, c'était un véritable flamboiement qui vous accueillait à la sortie du dernier virage. Quant au grincement qui l'accompagnait l'ouverture, il était digne des plus grands films d'horreur. Ceci mis à part, ce cimetière était un endroit charmant, entièrement clos de murs, plantés de cyprès, il respirait le calme, le repos. Le silence n'y était guère troublé que par les chants des oiseaux ou la fuite d'un lapin qui s'enfuyait à votre approche. Un bon coin pour poser quelques collets. Et c'est pas le braconnier du village qui aurait dit le contraire. Après avoir arraché quelques herbes et déposé un bouquet de fleurs des champs cueillis çà et là sur la route, en venant, et qu'elle posait sur la tombe du père Roger, son dernier mari, Irma m'entraînait faire un tour du cimetière. Elle faisait ainsi le tour de ses connaissances. Et elle me racontait. Elle me racontait les gens, comment ils étaient, leurs manies, leurs défauts, mille et une anecdotes qui font que certains d'entre eux que je n'avais jamais connus me semblent plus familiers que bien des vivants que je côtoie tous les jours. Je lui posais des questions. Elle adorait ça. Nous rions car... ces histoires étaient souvent drôles. Il nous arrivait même de prendre de véritables fous rires. Heureusement qu'il était bien peu fréquenté ce cimetière, car je me demande bien ce que les gens auraient pensé de nous si nous nous étions fait surprendre dans ces moments-là. Je ne sais pas si c'est à cause de tout ça, mais j'aime les cimetières. Les petits cimetières de campagne. Ces cimetières que l'on trouve dans les villages blottis au détour d'un chemin ou à côté de l'église ou du presbytère. Ce ne sont pas pour moi des lieux tristes, bien au contraire. À l'occasion, j'en pousse les grilles et devant une sépulture usée par le temps, je reste à rêvasser, essayant d'imaginer quelle a pu être la vie de cette Noémie ou de ce Jules qui repose en ce lieu depuis bien avant ma naissance. Parfois, à l'occasion, tous les 4 ou 5 ans, je vais faire un petit tour sur la tombe d'Irma, ma grand-mère. Celle-là même où elle allait rendre visite au père Roger. J'éprouve le même émerveillement devant la porte étincelante et le même frisson dans le dos en entendant le long grincement de la grille. Ouais, je te rends visite, Irma. Je reste un petit moment avec toi, et avant de partir, je fais le tour que nous faisions ensemble, le tour de tes connaissances. J'en ressors toujours un peu ému, mais jamais triste. Et si je n'ai pas peur de la mort, c'est sans doute un peu à cause de nos promenades dans ce cimetière, Irma. Et ça, ce n'est pas la moindre des choses que je te dois.
Dans les deux premiers arrivés, l'un était venu sans faire exprès, dans un hôpital en grève, dans sa galette, il n'y avait pas de fèvre. C'est pas qu'il était malchanceux, ni qu'il était très malheureux, ses lunettes en plastique, bah on lui faisait un peu une tête de con. L'autre avait l'air d'un bon merveille, assez gentil mais ahuri. Avec ses mocassins d'Indien, son costume clair et son pépin. Il fait sûrement s'appeler machin, ça tourna ou bien Alain, son air sympa mais pas très clair. Le faisait ressembler à Tony Blair. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière. On enterre pas les gens. à l'enterrement de ma grand-mère. On marchait tous vers le cimetière, on n'enterre pas les gens, ni dans les rues, ni dans les champs. Derrière eux, il y avait des parents, je sais pas s'ils avaient des enfants. Petit lui, il voulait un chien ou un cousin américain. Comme il n'avait pas de jardin, alors il a eu un frangin, son visage triste lusait un peu une tête de gnou. Il était flanqué de sa femme qui ressemblait à Jean-Claude Van Damme. Elle était carrée comme un cake et tout le carnaval de Dunkerque était pas plus maquillé qu'elle. Les Fontaines et les Fauchanel lui donnaient cet air dégourdi d'un mercenaire retravesti. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on n'enterre pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on n'enterre pas les gens, ni dans les rues, ni dans les champs. Alright. À la fin de cet enterrement, on s'est retrouvé dans le restaurant d'un mec qui nous a parlé d'elle les soirs où elle était si triste qu'elle buvait 12 apéritifs avant de rentrer pleurer chez elle. C'est le cancer et la chignon qui l'ont niqué à 16 ans. Tous ces gens qui étaient venus la voir une dernière fois au crématoire, c'était ses copains du quartier. Eux savaient qu'elle avait voté Mitterrand parce qu'il était bon, et vu que c'était le roi du bonjour, sa tête de fouine lui donnait la même mère que ma grand-mère. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le cimetière, on enterre pas les gens. À l'enterrement de ma grand-mère, on marchait tous vers le... Ah, y'en a deux que j'ai pas dit. Chacun son Yves Mourouzi, chacun son Freddy Mercury. À l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère. Il y avait deux choses que ma grand-mère aimait beaucoup, c'était de faire des espèces de grandes potées comme ça à la sauce tomate avec des morceaux de gras double qui flottaient, et ça faisait... Ça flottait, elle aimait ça, ça c'était la première chose, et la deuxième c'était celle-ci. Elle est vraiment morte. Est-ce que c'est pas simplement une journée comme ça où elle va être enterrée, puis en fait demain elle reviendra? Non! Il va falloir que je m'habitue à cette idée. M'en fous, j'en ai une autre. À l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère, à l'enterrement de ma grand-mère.
Eh oui, c'était San Severino dans une chanson qui s'appelle, vous l'avez entendu, à l'enterrement de ma grand-mère. Eh oui, et puisque la mort fait partie de la vie, eh ben il n'y a pas forcément de raison de n'en parler que sous une forme tragique. Hein. On peut très bien en parler gaiement, et puis, puisque les enterrements d'antan sont disparus, ah, il faut bien s'adapter. On a souvent dit, en effet, que la réalité dépasse la fiction. Et c'est vrai dans beaucoup de cas, et c'est bien comme ça que les choses avancent, que des progrès énormes sont, ont été et seront faits dans tous les domaines. De la roue à la Lamborghini, dernier modèle, eh ben il aura fallu compter quelques millénaires. De l'électricité à l'ordinateur, quelques centaines d'années. Et de l'adoration des étoiles à la découverte du Big Bang, quelques millions d'années. Et c'est une de ces grandes avancées pour l'humanité à laquelle nous assistons en ce début du millénaire. Avant même de construire les dolmens, les hommes préhistoriques, il y a quelques 90 000 ans environ, enterraient leurs morts. Et on le fait encore, hein, me direz-vous. Eh ben oui, et ces hommes-là, préhistoriques, dans la tombe, ils mettaient des objets, des restes d'animaux. Mais certains d'entre nous se font encore enterrer avec des bijoux, des dentiers, avec des dents en or ou un crucifix, une photo de famille, et j'en passe des meilleurs. Nous ne sacrifions plus nos animaux domestiques, mais on aime encore raconter l'histoire du chien ou du chat qui vient se laisser mourir sur la tombe de son maître. Les Néandertaliens décoraient les tombes quand ils enterraient leurs morts. Oh ben nous, on fait ça très bien aussi pendant des millénaires. Du tombeau égyptien, en passant par les Grecs, les Romains, la Renaissance, on a fait ça très bien. Ça se gâte un peu ces derniers siècles. Hein. Un bout de granit ou de marbre avec une croix ou pas, des fleurs en plastique et puis un affreux machin qui ressemble à un livre où on peut lire à notre ami ou à notre parent ou alors à notre père, notre mère, notre cousin, notre cousine, notre oncle, notre tante, notre copain, notre collègue, notre camarade, notre président. Enfin, vous voyez les mentions inutiles là. Suivi d'une formule, d'une banalité et d'une hypocrisie à pleurer. Enfin, vous me direz, mais on est là pour ça, pleurer. Ah bah oui, bien sûr. Mais enfin, est-ce que c'est une raison ? Non, franchement, au niveau de la décoration des tombes, on a bien baissé, il faut en convenir quand même. Alors ce mode de traitement des morts perdure dans nos pays occidentaux, quoique, depuis quelques dizaines d'années, cette pratique est fortement concurrencée par la crémation, hein, laquelle était déjà fort pratiquée de temps à autre, mais plus principalement sur les hérétiques de tout poil, les sorciers, les sorcières, les possédés divers et variés, bien sûr, et surtout Jeanne d'Arc, ça, faudrait surtout pas l'oublier. Dans les cramés, non, c'est faut pas l'oublier. Dans d'autres contrées du monde, cette crémation est, elle, traditionnelle. Au Tibet, par exemple, à cause des conditions climatiques, aux Indes, pour un tas de raisons, et puis ailleurs aussi, et puis... mais je sais pas pourquoi. Enfin, jusqu'ici, les cendres recueillies étaient soit gardées précieusement dans une urne funéraire, soit répandues dans la nature, dans un endroit qui avait séduit notre Maccabée pour une raison ou pour une autre. Il y a même eu quelques farfelus qui ont payé très cher pour se faire envoyer dans l'espace. Enfin bref, des trucs qui servaient vraiment à rien. Et ben c'est fini. L'ère du Maccabée utile vient de s'ouvrir. Et ceci grâce à Tony Mullen. Ah, ce monsieur était fan de Baltrap. Vous savez, ce sport où on tire avec un fusil sur ce que l'on nomme des pigeons d'argile, des disques en terre, qu'on jette en l'air grâce à un drôle d'appareil en criant « poule » et que le tireur rate en criant « merde ». Le but de ce sport étant d'éclater le plus possible de ces saletés de pigeons à défaut de pouvoir tirer sur des vrais. Voilà. Or, ce monsieur, dans ses dernières volontés, a exprimé le souhait que ses cendres soient incorporées dans des cartouches et tirées par ses amis en sa mémoire. Eh, sa charmante épouse a osé déclarer « Ah ben j'ai pensé à un moment à utiliser ses cendres pour confectionner les assiettes utilisées dans le bas de trappe. » les pigeons d'argile, là, dont je vous parlais plus haut. Mais ses collègues ont pas aimé l'idée de tirer ainsi sur leur ami. Et, ils ont fait ce que préconisait le Tony Mullen en question, à savoir mélanger ses cendres à la poudre des cartouches. Et ces cartouches ont été tirées par ses copains, pour lui rendre hommage, soi-disant. Toujours est-il que ce Tony Mullen ouvre ainsi l'ère du Maccabée utile. Hein ?
Oui, le Maccabée est utile, parce que grâce à lui, tout va être permis. Le footballeur, par exemple, qui crève, eh ben, il verra ses cendres incorporées aux crampons de ses camarades de jeu. L'escalateur, qui grimpe les falaises, eh ben, il se fera changer en talc pour assécher les doigts de ses petits copains qui grimpent. Hein? Et t'imagines la déclaration à la fin du championnat du monde de grimpette. Ah ouais, c'est grâce aux cendres de mon copain machin que j'ai pu vaincre cette falaise. Le champion d'athlétisme, lui, se verra mêlé à la piste en tartant d'un nouveau stade. On proposera aux électriciens et aux gaziers de rassembler leurs cendres afin d'en fabriquer des tuyaux et des gaines anticonductrices. Les cendres des routiers seront consacrées à la confection de pneus. Celles des peintres à celles de pigments. Hein ? Je vous laisse par exemple deviner le prix qu'atteindraient des toiles peintes avec les cendres d'un Picasso, par exemple. Hein ? Non, une révolution dans le marché de l'art. Et je vous laisse même pas imaginer où vont finir les cendres d'un dealer, mais bon. Pour les bouchers, ça sera plus dur. Hein, maintenant que les farines animales sont interdites. Mais quoi qu'il en soit, les perspectives sont immenses. Chacun d'entre nous a une petite ou une grande passion chevillée au corps. Les quelques exemples que j'ai donnés plus haut ne sont que le sommet de l'iceberg. Et l'idée que vos cendres vont se retrouver tous les dimanches sur un terrain de foot n'est pas la plus difficile à supporter. Enfin, c'est pas plus difficile que celle de s'imaginer en train de pourrir au fond d'un trou bouffé par les asticots. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Bon, maintenant, faut quand même voir combien on va vouloir nous faire payer tous ces petits délires. Parce que il faut quand même déjà payer pour avoir le droit de pourrir ou de se faire calciner. Et étant donné que les cimetières occupent des surfaces importantes, lesquelles pourraient très très bien servir à la construction de logements ou à toute autre surface commercialement monnayable, il convient bien sûr d'encourager la promotion de la crémation. Je propose donc que soit inclus dans le coût de celle-ci l'état post-crématoire. Une sorte de cadeau, en quelque sorte. Hein ? Il est évident que si votre dernier souhait est que vos cendres soient dispersées sur une place des Seychelles, vos héritiers préféreront exaucer votre vœu eux-mêmes plutôt que d'en confier la réalisation à une entreprise de pompes funèbres. Mais pensez un peu, un moment, aux pauvres héritiers de l'abruti qui aura décidé de se faire éparpiller par le vent au sommet du Mont Blanc le soir de Noël suivant son décès. Alors que ces héritiers ont le vertige dès qu'ils sont sur la troisième marche d'un escabeau. Hein ? Ah ah ! En voilà des qui seront bien contents pour un prix modique de pouvoir réaliser les dernières volontés de leur cher papa qui venait tout juste de gagner au loto. Hein ? Ah, c'est toute une nouvelle conception de la mort qu'il nous faut intégrer. Ah, je vois d'ici déjà les encarts publicitaires. Ne passez pas votre mort à ne rien faire. Mourez utile. Ah, on peut supposer que les signataires d'un contrat à mourir utile pourront bénéficier d'une déduction fiscale. Ce qui, comme d'habitude, ne changera rien pour les pauvres, qui de toute façon ne payent pas d'impôts. Ces salauds de pauvres, non, ça. Lui, on continuera à le faire pourrir en terre sans même un pardessus en marbre. Ou bien ses héritiers pourront s'endetter pour lui donner une sépulture décente. Et puis au bout d'une trentaine d'années, il ira finir de pourrir dans un ossuaire quelconque si on n'a pas osé trouver d'ici là un moyen de rentabiliser ses restes. Non, mais ça, c'est la version pessimiste. Mais je te peux tout aussi bien supposer qu'une nouvelle conception de la mort se fasse jour et que vivre sa mort heureux devienne notre seglant. Que le droit de vivre sa mort heureux devienne un droit constitutionnel. qu'au lieu de cacher la mort comme nous le faisons actuellement, elle soit là, partout, dans notre vie courante. Voilà qui nous changerait la vie. Et je suis sûr que nous ne verrions plus la mort de la même façon. Imaginez, par exemple, deux gosses dans la rue. « Oh, et tu me passes ton père ?» Là, il est en train de parler du ballon que porte son camarade. « Ah ben, je veux bien, mais tu me prêtes ta grand-mère, alors ?» Ça, c'est... Il parle, lui, de la vieille patinette qui traîne dans l'allée. « Ah oui, les morts seraient dans notre quotidien, leurs cendres seraient partout autour de nous, ce qui nous obligerait à penser à eux, même si ce n'est que de temps en temps. Le mort abusif, par exemple, exigera que ses cendres soient incrustées sur l'écran de la télé afin que sa famille passe son temps devant lui à le regarder. Ah, hélas, rien n'est parfait. Et le jour où la télé va tomber en panne, on entendra... Ah bah, qu'est-ce qu'on va faire de papa ? Bah, on peut quand même pas le mettre à la décharge. Et puis pareil pour le gars qui sera transformé en crampon de foot, hein. Ça s'use une godasse de foot. Et un jour, il faudra bien s'en séparer. Et que va-t-on faire de toutes ces reliques ? Hein ? Faut bien appeler les choses par leur nom. Les enterrer, leur faire subir la crémation, les immerger comme de vulgaires ordures, ou bien les conserver dans des endroits spéciaux qui auraient la particularité de furieusement ressembler à une décharge où l'on viendrait se recueillir une fois de temps en temps, si le temps et l'odeur le permet. Ah non, je vous le dis, hein. L'avenir sourit aux ordures.
Ah oui, vous avez vu, j'ai imaginé des manières de, comment dire, de changer les rapports entre la mort et la façon de le vendre. Et on vit, savez-vous, peut-être, hein, peut-être êtes-vous informé qu'on vit dans une société de libre concurrence. Eh oui, la libre concurrence. En tout état de cause, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Théo qui toutouille les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.